On a souvent dit que mes livres étaient faits. Mais comme la musique est faite, et... c'est toujours une chose qui m'a beaucoup touchée, étant donné l'importance que je donne à la musique. Mais je pense, si je peux avoir un avis, que c'est vrai. En tout cas, pour India Song, livre, et India Song, film, c'est vrai. N'est-ce pas ? Puisque tout démarre, tout le film part, si vous voulez, le train du film, le bateau, appelez-le comme vous voulez, à partir d'un air, qui est India Song, d'un air entendu il y a très longtemps, et sur lequel, vers lequel accourt et la mémoire et l'oubli d'une histoire. Et dans La femme du Gange, de la même façon, j'oublie. Dans La femme du Gange, déjà, on se servit d'India Song, de l'air India Song. Donc cet air est aussi le pont entre mes deux derniers films. La première chose que j'ai montée, c'est la musique. Le son est arrivé après. Donc le film a été musical avant d'être parlé. Ce qui n'arrive jamais, puisque c'est toujours en dernier lieu qu'on colle la musique. Le film est déjà, n'est-ce pas, vous avez une sorte de moderato cantabile au début, n'est-ce pas, sans jeu de mots. Et puis un vivace au milieu, je peux le dire ainsi. Et à la fin, une andante interminable. Oui. Il y a trois parties, et pour moi, elles se détachent musicalement parlant. Et la voix, bien sûr, oui. La voix parlée, la voix, l'organe de la voix, oui. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait faire trois fois les dialogues du film. Je n'étais jamais contente. Hein. Ce qui m'enchante complètement dans Delphine Seyrig, c'est la musicalité de sa voix. Quelqu'un me disait, mais elle ajoute, elle est déjà dans la musique, elle est déjà musique. Même si on ne comprend pas. Si on ne comprenait pas, je veux dire. Quand je prends un acteur, je peux dire que je me base à raison de 60 ou 70% sur sa voix. Le physique est emporté par la voix, si vous voulez. Je dis toujours entendre, oui. Pourquoi faites-vous du cinéma pour entendre? Et je réponds pour entendre les voix. Dans Hiroshima, j'avais dit tous les textes avant le départ pour Hiroshima. J'ai dit, Irénée emportait les bandes magnétiques, j'ai dit tout le texte d'Hiroshima. Le texte de Riva. Vous vous souvenez, enfin, c'est... Il y a une ponctuation presque déponctuée. Elle ne dit pas « tu n'as rien vu à Hiroshima ». Elle dit « tu n'as rien... » Non, lui. Il dit « tu n'as rien vu à Hiroshima ». J'ai cassé la ponctuation pour donner une nouvelle... une autre musicalité que la musicalité parlée. Bavarde. Parce que c'est laconique, enfin. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis immédiatement. Je le dis net, cut, comme on dit dans le cinéma, sans approche stylistique, vous voyez. Tout le fatras qui entoure, par exemple, les déclarations d'amour ou les déclarations essentielles, je les ai toujours évitées. Mais la voix, bien sûr, la voix est majeure. Il n'y a pas d'acteur sans voix. Et vous avez vu que la musique arrive fatidiquement. C'est-à-dire que toutes les minutes, elle arrive, quelle que soit la scène en cours. Elle arrive bien, elle arrive mal. Elle arrive sur les cris, les appels horribles du vice-consul. Enfin, magnifique pour moi. Quand il crie sa passion pour elle. Il y a une rumba qui arrive. Et pendant la réception aussi, elle arrive comme ça, toutes les minutes. Je crois qu'il y a une ou deux exceptions où elle arrive 10 secondes... plus tard, à cause des changements de bobine, du métrage des bobines. La chose qui me frappe beaucoup, c'est l'arrivée du Charleston sur les larmes, quand le vice-consul pleure. Ouais. Ça, j'étais contente de m'être soumis ça, cette espèce de fatalité musicale qui arrive sur le film à intervalles réguliers. Parce que tout d'un coup, ça tombait merveilleusement aussi. Ouais. Quand je travaille, je ne dis pas je fais de la musique. C'est après coup. Dire que j'ai vécu un énorme bouleversement dans ma vie, c'est quand mon fils, qui était très doué pour la musique, a appris le piano. Et pendant un an, je n'ai plus écrit, je ne faisais que ça, quoi. Que l'accompagner à ses leçons, lui faire faire ses exercices et tout ça. Et il était très doué, il allait très très vite. Et en lui demandant un tel effort, un effort trop grand, on a dégoûté l'enfant, si vous voulez. Il avait 8 ans. Et je m'en veux de ça, il y a beaucoup. Je m'en veux qu'on ait fait un forcing. C'est la maîtresse de piano qui le trouvait exceptionnellement doué, qui a dit tu joueras une invention de Bach au bout d'un an. Il avait 7 ans, ce qui est arrivé. Mais jouant une invention de Bach, il n'a plus fait de gamme, l'enfant, vous voyez. Il croyait que c'était fini. Bon, je l'ai vécu, ça, avec une très grande intensité. Enfin, l'idée que mon enfant pouvait être musicien me comblait plus que n'importe quoi dans ma vie, n'importe quoi d'autre. Vous imaginez. Oh, je devais écrire, mais très peu. Enfin, ma vie était complètement dominée par ça, complètement, complètement. La première pensée le matin, c'était les exercices de l'enfant. Ah oui, non, j'ai pas dû écrire, j'ai dû écrire après. Pendant un an, je crois que je n'ai rien fait d'autre. Que le traîner à ses leçons, le pauvre.